Et sans plus tarder, on accueille notre ami Guillaume Latendresse au lendemain de la dernière édition du podcast La Poche Bleue. Bonsoir, Guillaume.
Salut, Mario.
Vous avez du fun en masse, pas quoi? Oh, t'as une bonne voix, j'ai l'impression que vous n'êtes pas couché trop tard, pas si pire, non?
11h30 hier à peu près, mais je file un peu grippé, fait que disons que j'ai été moins amoché que la semaine passée, disons.
Ah, un petit peu, un petit fond de grippe, là, tu te poses ta question, faut que tu ailles pour passer un test.
Je t'allais pas tester aujourd'hui encore parce que je travaille avec des jeunes, là, fait qu'il y a pas de chance à prendre. Ouais, ouais, je suis allé aujourd'hui, on va voir le résultat, mais non, tu sais, en travaillant avec des jeunes, puis non, je vais pas prendre de chance.
Non, mais tu fais bien, Guillaume, je pense qu'on a tous ainsi en pareille circonstance. Donc là, une fin de semaine d'isolement en attendant d'avoir ton résultat, puis tu sais que ça peut traîner une couple de jours. Hein? À moins que vous ayez des contacts ou que dans les organisations sportives ou scolaires qu'on ait accès plus vite aux résultats.
Oui, exact. Je sais pas. Ils m'ont demandé justement, je travaillais si j'étais j'avais un emploi dans un milieu scolaire, donc ça sera à voir. J'ai dit oui, peut-être ça va être plus rapide. Mais oui, je vais me tenir loin de l'aréna pour en fin de semaine. Je vais laisser les entraîneurs faire le travail. Surtout avec la nouvelle qu'on a aujourd'hui, là. Mais c'est ça qui est difficile depuis le début. C'est qu'on prépare des choses, on a un plan de match, puis on dirait que toutes les fois qu'on arrive pour le mettre en place, ben les règlements changent. C'est comme là, on est en train de faire un match inter-équipe entre mon midget 3, mon midget espoir, les faire jouer ensemble, mon bantam 3, mon bantam 3 relève, les faire jouer ensemble, faire un match inter-équipe. Là, on se retrouve, les règlements, puis c'est pour le mieux, les règlements changent, tant mieux, c'est correct, on va s'adapter, mais je veux dire, à toutes les fois qu'on arrive, tu sais, c'est dans deux jours, tac, le règlement change, faut se virer de bord, faut repartir, faut mettre des matchs, faut retrouver des adversaires, c'est ça qui est compliqué, là, avec la Ligue midget 3, faut que je leur lève mon chapeau, par exemple.
Là. Pas évident. Paul Ménard sera avec nous tout à l'heure, directeur général d'Hockey Québec, plus tard à l'émission. Mais tu me permets, je vais ouvrir le jeu tout de suite là-dessus. Donc, Hockey Québec a publié un communiqué qui on dit là, qu'il y a de nouvelles directives, on limite les déplacements de région en région. Les matchs en zone orange, les régions où vous êtes en zone orange, c'est 8 joueurs et un gardien par équipe, donc 9 contre 9, pour laisser place à 2 entraîneurs et 3 officiels dans des situations de match. Est-ce que ça hante, là? Est-ce que toi, vous autres, êtes-vous en zone orange, Guillaume?
Non, nous autres, en Montérégie, je pense qu'on est encore en jaune. Là, je crois qu'on est encore correct pour faire des matchs. Mais depuis le début du mois d'août, dans la Ligue Midget 3, on faisait des matchs 10 plus 1. Fait que, on se retrouvait, qu'on séparait nos équipes en deux. On affrontait Châteauguay qui avait 2 équipes. Fait que ça faisait vraiment un roulement. Puis tout le mois d'août, honnêtement, c'est juste depuis que l'école a recommencé là, que je pense qu'il y a juste les élites de Jonquière qui ont eu des cas vraiment dans leur équipe. Le reste, c'est dans l'école. Fait que ça avait vraiment fonctionné, le plan de la Ligue. Puis moi, de mon côté, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui chiale au niveau de la Ligue puis les changements, mais moi, je veux les féliciter pour le travail qu'ils font parce qu'ils mettent des heures puis c'est pas du monde qui font de la... Tu sais, c'est pas des gars qui font de la grosse argent, là, je veux dire. Ils mettent beaucoup d'heures pour le salaire qu'ils ont parce qu'ils sont passionnés par les jeunes depuis plusieurs années. Puis ils essaient de trouver des solutions pour permettre à nos jeunes de performer puis d'être sur la patinoire. Fait que moi, j'ai félicite pour ça parce qu'ils se tournent de base sur un 10 cents. Puis ça prend du monde comme ça pour faire évoluer puis permettre à nos jeunes de travailler puis d'être sur la patinoire le plus rapidement possible.
Oui, de progresser même si c'est pas le cadre régulier ou le cadre normal, entre guillemets. Éric Bélanger, d'ailleurs, coach de Ninja 3 dans la région de Québec, sera avec nous tout à l'heure pour exposer.
Ça va être intéressant, ça.
Oui, monsieur. Éric a jamais peur de dire ce qu'il pensait joueur, comme ancien joueur et maintenant comme coach. Dans le hockey mineur. Ouais, fait que, donc, Éric, à ne pas manquer tout à l'heure. Je sais qu'hier, compte tenu que tu étais en pleine balado là, avec Maxime, que tu n'as pas regardé le match de façon attentive, tu as sûrement vu les faits saillants. Il y en a beaucoup. Tout le monde parlait de Steven Stamkos après le match. Le gars qui a le moins de minutes d'accumuler dans le match et dans les séries. Il compte pendant sa présence. As-tu déjà vécu des épisodes de leadership semblables, toi, Guillaume, dans ta carrière, de côtoyer des gens qui... À surmonter des blessures. Bon, ça, c'est son histoire, c'est son histoire. Il y a d'autres genres d'histoires, mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, peut-être la celle qui s'approchait le plus d'une situation comme ça, là, c'est quand Josh Harding avec le Wild, là, la situation avec la sclérose en plaques, là, le multiple sclerosis. Fait que lui, il avait manqué quelques matchs, quelques opportunités, puis il était médicamenté, puis il fallait qu'il y ait un suivi très étroit. Fait que peut-être ce serait cette situation-là. Mais non, hier, pendant la balado, là, j'avais la télé ouverte à côté, puis je regardais les faits saillants. Je regardais le match aussi un petit peu. Là, on voyait vraiment du côté du Lightning là, qu'on voulait passer un message, puis que nos gros canons ont sorti. Puis du côté des Stars, ben retour à la réalité. On est vieux, on est certains vétérans, les jambes sont plus pesantes, mais c'est la beauté de la game pour moi, c'est ça. C'est que c'est un match de série, là, que tu perds en 5e prolongation, comme il est arrivé dans la première ronde, ou que tu perdes comme hier, ou ce que tu n'es pas dans le match, ben c'est 2-1 pareil. La série, puis tu as l'opportunité demain de performer. Je pense que. Puis quand on regarde le calendrier qui est bizarrement fait un petit peu. Là, on se retrouve dans un match, deux matchs en 24 heures. J'ai hâte de voir la façon qu'on va réagir du côté des Stars de Dallas. Honnêtement, le gardien Hudobin qui doit pas avoir fait ça souvent dans les 10 dernières années, être dans les filets deux matchs d'affilée. Donc, j'ai hâte de voir comment on va être capable de réagir à tout ça. Là.
J'étais surpris. Tu l'as connu, Hudobin, parce que tu as joué avec au Minnesota, justement. Tu peux peut-être nous parler du bonhomme. Pas parce qu'on est au lendemain d'une défaite, mais pas en tout. Mais j'ai été surpris que Bonus le laisse là. Je sais pas si le fait de symbolique de dire je veux pas sortir mon gars pendant le match, c'est l'humiliation de devoir quitter le filet, puis je vais faire ça en douce après la deuxième période, mais je l'aurais peut-être sorti avant pour qu'il revienne plus fort au match suivant. Ça changera peut-être pas grand-chose une couple de minutes là.
Non, exact. Des fois, c'est le timing du but marqué, combien de temps qu'il reste dans la période. On le dit souvent, là, pourquoi les gardiens numéro 2 restent des gardiens numéro 2 souvent, c'est parce que oui, quand ils ont pas la pression d'être le premier, ils sont capables de réagir, ils sont capables de prendre la pression parce qu'ils sont ils savent que le prochain match, c'est le premier qui revient dans les filets. Puis c'est pas négatif, c'est pas péjoratif du tout ce que je dis en ce moment. C'est juste, c'est la réalité d'un deuxième gardien. Il y en a qui sont des Carey Price, là, il y en a 30 dans il y en a 32 maintenant dans la ligue avec Seattle, là, tu sais, fait que c'est vraiment quelque chose que t'es habitué de faire quand t'es un gardien partant. Puis je pense que Hudobin en ce moment le réalise un petit peu, que toute sa vie il a été un deuxième gardien, puis là c'est la pression est sur lui. Il a fait des miracles, la rondelle l'a frappé quelques fois, peut-être qu'il a été chanceux quelques rebonds, mais là je pense que la réalité le rattrape, dans le sens que un deuxième gardien qu'il y a la pression sur lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va se planter demain? Au contraire, tu sais, c'est un battant, c'est un gars qui va prendre l'adversité, qui va prendre le challenge. Mais il reste que pour moi, s'il a été gardien pendant 10, 12, 15 ans, peu importe, deuxième, je pense que ça peut le rattraper à un certain moment.
Mais tu penses-tu que Dallas, tu penses-tu que Tampa Bay vient de sortir mentalement Dallas de la série, ou tu sais, il y en a, bon, Radulov, une couple de pénalités encore une fois, il y en a qui mettent l'emphase là-dessus, mais tu sais, il y avait quand même une certaine hargne au jeu. Mais des fois, jouer avec un sentiment de culpabilité, ou je sais pas comment tu peux traduire ça, est-ce que Dallas va revenir dès le prochain match, puis tu penses un peu compliquer la tâche à Tampa Bay, ou tu penses que là, c'est le début de la fin à partir d'hier, là?
Non, moi je pense que du côté des Stars, ben premièrement du côté au niveau talent, on est tout, le Lightning est supérieur. Au niveau grit, on est capable de les accoter. Au niveau expérience, ce qu'on a vécu dans les dernières années a donné un gros bond d'expérience au niveau du Lightning de Tampa Bay. Fait que je pense que dans ces points-là, on est avantagé. Mais s'il y a une équipe au niveau du talent, si on regarde l'ensemble de l'organisation de l'équipe, tu sais, on a des jeunes défenseurs, on a Eskanen, on a Klingberg, on a des gars qui bougent bien, on a à l'attaque des vrais vétérans comme Ben, comme Seguin, des gars que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qui sont le trademark un peu des Stars de Dallas, mais on est venu ajouter des jeunes à ça. Et des vétérans qui n'ont vu avant, tu sais, des Corey Perry, des Joe Pavelski. Je suis certain que ces gars-là dans le vestiaire sont capables de calmer le jeu, de dire aux boys. Puis tu parlais tantôt d'un gars comme Radulov, c'est un gars qui a de l'expérience dans la Ligue nationale, c'est un gars un peu qui a dans sa game, il y a de la hargne, puis moi ce que j'aime c'est qu'il y a une naïveté, on dirait, dans sa game. Tu sais, lui il se pose pas de questions, il n'a pas que sa glace de travail, il va à 100%, puis on verra le résultat à la fin. Tu sais, j'aime sa naïveté dans sa game, puis des fois ça y fait prendre des pénalités, mais des fois ça fait des jeux extraordinaires, puis ça fait que c'est un gars qui est tellement important pour une organisation. Donc je pense que le
gars, il est rentré tête première d'une bande à un moment donné, par exemple. ça
dernier j'avais vu faire ça, c'était Steve là. Quand il avait mangé à la bande au Centre Bell, Steve Bégin.
Hey,
ça, il l'avait mangé à sa bande. Mais je pense que les Stars de Dallas ont le potentiel, ont la profondeur, ont l'expérience pour être capable de rebondir. Mais le Lightning est supérieur. Je pense que c'est vraiment ça. Au final, le Lightning est supérieur.
Il y a l'air de quoi, Hudobin, comme coéquipier dans la chambre, dans Tesano, Minnesota, parce que c'est devenu un gars pas mal sympathique dans ces séries-là. Là. C'est un bon bonhomme, un gars drôle, un athlète.
un vrai, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment un bout en train, là. Tu sais, c'est un pince sans rire.
Je pensais que t'allais dire un Roger Bontemps, non?
Non, mais, tu sais, c'est un gars travaillant, c'est un gars des entraînements qui restait super longtemps, c'est un gars on va faire des breakaways, pas de problème, on va rester. Tu sais, c'est un gars, il est pas là pour rien, puis il a pas eu une longévité comme deuxième gardien pour rien. Tu sais, ces gars-là qui réussissent à rester longtemps comme backup, c'est parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Puis, honnêtement, je pense que Hudobin, il l'a. Il est rassembleur. C'est un gars qui accepte son sort, qui accepte son rôle, qui est positif, qui est souriant.
Comme dirait Marc Bergevin, un glue guy.
C'est un gars, exactement.
Un homme qui sert à tisser le à faire en sorte... Tu sais, la guimauve pour faire tenir les Rice Krispies ensemble, disons.
Exactement. Je n'ai même pas d'argument pour aller plus loin que ça, Mario. C'était trop bien dit, ça.
Quel est le meilleur morceau de guimauve sur patin que tu as vu dans ta carrière, Guillaume? Le meilleur glue guy que tu as vu dans une équipe? As-tu un nom qui te vient en tête?
C'est une bonne question.
Ouais,
c'est une bonne question. Mais tu sais, j'en parlais tantôt quand on préparait avec Michel. Tu sais, dans chaque organisation puis dans chaque moment de ma carrière, il y a un gars qui m'a impressionné dans le vestiaire que j'étais.
Oui.
Tu sais, c'est important.
Côté leadership.
Exactement. Côté leadership, mais côté prendre la place qui revient. Tu sais, à Montréal, un gars comme Frank Bouillon qui était autour de l'équipe, qui était autour des jeunes, qui donnait de l'espace aux jeunes, qui donnait confiance aux jeunes. Tu sais, moi puis Max, quand on est rentré, Frankie Bou était. Puis tu sais, j'enlève rien au Bay, j'enlève rien à Dandy, j'enlève rien à ces gars-là qui ont été extrêmement sharp, Théo, Ribs, qui ont été carrants que nous autres, mais Frank, il avait ce petit côté-là de grand frère, peut-être un petit peu plus, puis par la suite, je suis allé avec le Wild. Complètement différent, complètement un vestiaire à l'opposé de Montréal, où ce que on acceptait un peu la défaite, où on était habitué de perdre dans un sens, puis on avait un jeune capitaine qu'on venait de nommer en Mikko Koivu, mais dans le vestiaire, le vrai contrôle du vestiaire au début, c'était Andrew Brunette qui l'avait, tu sais, c'est lui qui parlait, c'était lui qui avait les speeches, c'était lui qui parlait devant le monde, c'était vraiment un gars vocal, tu sais, c'était vraiment c'était l'assistant capitaine, mais je peux te dire que c'était un co-capitaine. Puis il prenait beaucoup de place, mais que c'était un leadership qui était positif pour moi. Puis après ça, tu t'en vas avec les sénateurs d'Ottawa, où tu as un Daniel Alfredson, que lui, c'est Monsieur Sénateur. C'est lui qui contrôle quand on pratique. C'est lui qui contrôle si on veut un day off. C'est lui qui... Tu sais, il y avait vraiment là la main mise sur tout ce qui se passait. Puis c'était la première fois que je voyais un joueur être quasiment faire partie d'un coaching staff.
Tu m'enlèves. Écoute, permets-moi de te poser une question parce que où tu t'en allais, je voyais là, les images en t'écoutant. Ouais. Dirais-tu que le gars qui contrôle la chambre, un Weber à Montréal, une façon de parler, contrôler la chambre, là, le leader, là, dirais-tu que c'est il y a plus d'impact que le coach lui-même?
À un certain point, oui. je pense que au final, tu sais, c'est le coach qui décide du temps de glace, c'est le coach qui décide du système de jeu, mais il reste que la façon que ce gars-là, qui est le membre extra du coaching staff, si je peux appeler ça, tu sais, c'est le palier entre le message du coach puis le message des joueurs, là, tu sais, c'est vraiment la courroie centrale, c'est ce gars-là, là. Tu sais, tantôt on parlait de glue dans le vestiaire, mais il y a une glue aussi entre le coaching staff puis les joueurs, puis un contrôle du message que l'entraîneur pourra jamais avoir autant que ce gars-là. Puis je pense qu'un gars comme Alfie, c'est exactement ça qu'il faisait. Puis quand tu voyais qu'Alfie était derrière les décisions de l'entraîneur ou qui embarquait dans pratique puis qui était sans porter, je pense que ça prend ça, puis le coaching staff avec Paul McLean, qui avait beaucoup d'expérience quand même comme joueur, était capable de tempérer, était capable de comprendre le rôle qu'il avait. Puis il y avait de l'autre côté, ce qui était drôle à Ottawa, c'est que tu avais un vétéran comme Alfredson, que lui est à la lettre, à cheval sur tout ce que l'entraîneur demande, qui était vraiment le messager du coach. Puis tu avais à l'inverse un jeune coq qui rentrait puis qui venait un peu prendre la place d'un gars comme Alfredson, tu sais, un Eric Carlson, là, il dominait sa patinoire. Dans le vestiaire, il prenait quand même beaucoup de place pour un jeune joueur. Des fois, il était pas toujours d'accord avec le message de McLean. Il sortait du bureau, on le savait qu'il était pas content. Là, tu voyais Alfredson qui allait à ces deux gars de la même place, qui allait le chercher, puis qui venait le calmer. Tu sais, fait qu'il a vraiment réussi là à amener ce message-là, cette façon de travailler-là que Carlson peut-être venait justement que l'entraîneur Carlson avait peut-être pas le contrôle qu'il voulait dessus, puis c'est pas négatif, c'est une super vedette de la ligue que Alfredson réussissait à l'emmener dans le bateau de l'entraîneur. Fait que oui, ce gars-là est tellement important.
Guillaume, dans tous les auditeurs que nous comptons par probablement plusieurs milliers, dizaines de milliers, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis les patins, qui ont chaussé les patins dans la Ligue nationale, dans un vestiaire encore moins. Mettons dans une situation pas nécessairement Jojo, quand une équipe là, épouse ce membre de la gloire, là, qu'il y a plus, il y a de la place à du rouspétage, ou peu importe la situation, quand vous êtes tous dans la chambre, puis qu'un entraîneur vient de faire un speech, puis qu'il quitte la chambre, quand la porte se ferme, puis que le coach n'est plus là, là, c'est-tu la même chambre? Tu sais, le coach en mange-tu une coupe dans son dos ou quoi? Tu sais, comme, y a-tu des faces, des yeux qui tournent dans la graisse de bine en se disant, ouais, encore la même cassette ou quelque chose dans le genre? Peu importe, je t'écoute.
C'est sûr qu'il y en a, mais c'est pas eux qui vont être. Ils ne vont pas se lever pour dire, hey, voyons donc, lui, là. Là tu comprends, je veux dire. Moi, j'ai pas vécu ça.
Tu prends pas trop de place avec ce genre d'attitude.
Exact.
Là.
Il va dire à côté de son chum, hey, il va peut-être avoir un commentaire entre deux gars sur le bord, sur le banc, dans la chambre.
Oui.
Mais de se lever puis d'aller au contraire de l'entraîneur, je pense pas. Je pense que les entraîneurs de la Ligue nationale réussissent à aller chercher les personnes qui ont besoin pour contrôler cette vestiaire-là, justement. Tu sais, à Ottawa, quand je parle des Sénateurs. Parce que, tu sais, j'étais à Montréal longtemps, trois ans et demi, à Minnesota aussi, puis à Ottawa, j'ai pas été là longtemps, mais j'ai été marqué par le leadership de cette équipe-là, par la façon, tu sais, c'est rare que tu vois des gars dans le hockey d'aujourd'hui être dans la même organisation tellement d'années, puis quand je dis ça, je pense à un gars qui vient de quitter, c'est Craig Anderson, qui contrôlait quand même le vestiaire comme gardien, mais il y avait Chris Neal, Chris Phillips, Daniel Alfredson, tu sais, j'avais Sergei Gonchar qui était là, tu sais, t'avais des vétérans que l'entraîneur a été capable d'aller chercher, de mettre de son bord. Une fois que t'as ça dans ton vestiaire, personne va rouler les yeux. Parce que si tu roules les yeux à Paul McLean puis Chris Neal, il est d'accord avec lui, là, je peux te dire qu'il va se lever, il va te dire c'est quoi ton problème, puis viens, on va le régler, tu sais.
Il va te challenger assez vite.
Parce que Chris Neal, lui, si tu te lèves pas la tête, là, lui, c'est comme, c'est une game numéro 7 de playoff, la pratique du mardi à 10h, là, tu sais. Fait que.
Mais il y a une autre affaire qui est différente aujourd'hui, tu sais, pour, ouais. Je pense que c'est le cas dans pas mal tous les vestiaires, mais je sais qu'au Centre Bell, à moins qu'il l'ait enlevé, là, il y a une caméra dans la chambre maintenant.
Ah ouais, ok.
Est-ce que ça dérange les gars?
Je sais pas, ça c'est une bonne question. Moi, j'ai jamais vécu ça d'avoir une caméra, mais c'est certain qu'il y a toujours les fameux, nous autres on les appelle dans le milieu les brown nose là, tu sais les gars qui sont tellement
les nez bruns
là, tu sais, sont tellement sniffeux qu'ils viennent à un certain point où le nez est brun, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, qui non mais tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais qui sont
non, je pense que tout le monde comprend.
Tu sais, qui sont le coach rentre dans la chambre faire son speech à 8 minutes 15 à chaque match, ben à 8 minutes 18, il va se mettre à crier puis let's go, tu sais ces gars-là qui sont dans le vestiaire qu'à un certain moment les gars font comme OK, là, on sait là, que tu le fais à ton speech à ce temps. T'sais, c'est quand même drôle la dynamique d'un vestiaire puis la façon de que tout ce monde-là travaille ensemble puis comment les
comme dans la vraie vie, Guillaume, j'imagine. Ah,
c'est une micro-société.
Il y a des soldats, il y a des leaders, il y a des suiveurs, il y a des licheurs, il y a des gardes. J'imagine vous avez tout ça, là.
Il y a tout ça. Il y a vraiment tout ça.
Il y a des brown nose.
Ouais, je m'excuse, je veux pas. Je sais pas comment l'expliquer.
Ouais. C'est qui le plus grand brown nose que t'as connu dans ta
carrière? Ah non, Mario, je vais pas là ce soir.
Come on!
J'ai pas bu de vin à ce soir, Mario.
OK. Bon, ça veut dire que ça va prendre ça pour. Non, je te taquine, regarde, c'est pas grave. On a du fun. Mike Hoffman, tu l'as pas croisé longtemps. Je sais pas si Floride vont le laisser aller, mais tu sais, on dit bien des affaires. Il y a bien du monde à propos de qui on dit bien des affaires, mais il est capable de shooter une puck en bon québécois. Il est capable de mettre une rondelle dans le filet. Si tu es un gars, tu toucheras pas avec une perche de 20 pieds ou. Tu connais-tu assez pour ça ou pas?
Non. Je pense, tu sais, tous les gars. Puis c'est plate à dire, tous les marqueurs de but pour moi, tu sais, puis je pense là-dedans, je mets un gars comme Taylor Hall qui est un gars qui a marqué des buts, même un Pacioretty ou même un Alexander Ovechkin. À un certain point, ces gars-là dans un vestiaire feront pas toujours l'unanimité parce que à un certain point, quand faut t'en mettre 35, 40, 45, faut que tu sois égoïste. C'est plate, faut que tu triches, faut que tu coupes certains coins ronds pour arriver dans le timing, pour être capable de la mettre dedans. Faut que tu quand on dit jouer le pourcentage, des fois faut que tu le triches ton pourcentage. Tu le sais qu'il est moins bon, mais tu comprends. Fait que ces gars-là dans un vestiaire des fois peuvent être frustrants, peuvent mettre puis c'est souvent de là que sortent les mauvaises langues, que sortent les mauvaises réputations, parce que le gars c'est un scoreur, puis le gars dans la vie c'est ça qui fait scorer des buts.
Les gars l'acceptent autour, Guillaume, ou pas tant?
Ben il y en a qui l'acceptent pas. Il y en a qui chialent, puis c'est là qu'on a des réputations des fois comme Taylor Hall que je connais pas puis que je jugerai pas, mais que tu sais il y a pas de positif beaucoup qui sortent autour de Taylor Hall quand on entend des discussions. Fait que souvent c'est un peu ça la discussion que ces gars-là peut-être peut être négatif, mais moi honnêtement dans mes années dans la Ligue nationale, je peux pas dire un gars que je te dis touche pas à ça, c'est vraiment une mauvaise personne, tu comprends? Tu sais, je pense que chaque personne va trouver sa chaise dans une situation où il va être heureux puis qu'il va se sentir accompli, puis qu'il va se sentir, tu sais, des gars qui en marquent 40 par année, là, Ils veulent être le go-to guy. Puis des fois, ils se retrouvent qu'ils sont pas en désavantage numérique ou ils sont pas en fin de match parce qu'ils trichent certains points. Puis c'est là que ça les fâche, c'est là que ça fait une mauvaise réputation, ça fait une mauvaise chimie. Mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en ligne de compte dans le calcul, dans l'équation, justement, de la situation. Tu sais, fait que moi, ces gars-là, j'ai aucun problème parce qu'un gars qui peut m'en mettre 40 dedans, ça court pas les rues. Puis s'il y a un problème d'attitude, ben t'as Shea Weber, t'as Price, puis t'as des gars de même qui sont supposés être capables de contrôler le vestiaire. Parce qu'un gars tout seul, il a beau être aussi fort qu'il veut, si tes leaders sont tous ensemble, ils vont embarquer dans le moule, il n'y aura pas le choix.
Excellent ça, excellent. Guillaume, juste un retour sur la poche bleue d'hier, ouais, que les gens peuvent aller écouter. Éric Gagné, récipiendaire du Cy Young dans le baseball majeur, vous l'avez amené sur l'histoire de dopage, bien sûr, qui a marqué une partie, ouais, de sa carrière. Écoutons un extrait.
Moi, je sais que ça raccourcit ma carrière d'au moins 4-5 ans. Je me lance encore. Je me lance tous les jours, je me bats pour être capable de lancer. Mon bras va bien, mon dos va moins bien. Qu'est-ce qu'il y aurait une raison? Moi, je pense que prendre des produits comme ça, ça va ralentir. Tu grandis trop vite, tu grossis trop vite. D'abord, quoi, je sais pas exactement. Moi, je savais même pas que je prenais en plus. Fait que c'est, j'ai un rookie, mais l'important des jeunes, c'est de savoir que les shortcuts, ça va te rattraper un moment donné. Moi, j'ai fait une erreur, puis je vais payer jusqu'à la fin de ma vie parce que il va le temps avoir un petit quelque chose dans ma tête pour moi. Puis le monde, ils vont dire, c'est correct, mais moi, je sais dans ma tête que j'aurais pu pas le faire. Ça, c'est pas compliqué.
As-tu aimé ça, Éric? J'ai toujours aimé parler avec en honte. T'as un gars qui parle, là, ça sort. Hein, comme
c'est incroyable, honnêtement. Il est arrivé, je pense, sur le show à 8h15, puis on a fini à 11h30. Là. Il a été là avec nous autres, je pense, pendant 2h15 à jaser. On a parlé de n'importe quoi, des Coyotes de l'Arizona. On a rentré Louis Domingue, Antoine Roussel. On a fait une conversation, c'est sport. Éric se penche bien gros parce que c'est sûr, dans le baseball, c'est peut-être un peu plus que le hockey. On en a parlé l'autre fois, mais les stats avancées. Dans le baseball, toutes ces choses-là, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Son ouverture face aux stupéfiants, face aux drogues qui ont amélioré la game. Tu sais, moi je trouve ça intéressant d'avoir son opinion, d'avoir son point de vue. Mais au-delà de ça, je l'ai fait, je vis avec, puis aujourd'hui il prend, puis il essaie de passer un message, de véhiculer un message aux jeunes comme quoi il a pris la décision d'en prendre au final, tu sais, puis il l'a fait, puis il vit avec ça, puis il est conscient de ça, puis tu sais, il nous disait que ça, je pense que c'est la première année qu'il mettait son Cy Young sur le mur, là, tu sais, fait que c'est quand même quelque chose que tu restes marqué,
wow.
Puis que tu te dis, tabarouette, ok, c'est assez spécial, là, tu sais.
Excellent, alors les gens peuvent écouter La Poche Bleue, où exactement, Guillaume, même quand c'est pas en direct, là, le lendemain, comme aujourd'hui, ceux qui ont pas venu ça hier en direct, là?
Ouais, ben vous pouvez aller sur justement notre chaîne YouTube, là, les mercredis, on est live à 19h30, mais toute la saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur notre chaîne YouTube, sinon sur la plateforme de Cogeco, C23, La Poche Bleue est là, qui va de ramener tout le monde là sur notre Spotify ou notre Apple ou toutes ces choses-là. Là. Donc, puis on a notre site internet aussi, on a plein de belles choses, on a des chandails, des casquettes, mais on a aussi des pochettes qu'on appelle avec des... Hier, on présentait le podcast du mois, c'était des jeunes, six jeunes qui parlent de sport, puis ils venaient nous présenter leur projet. Fait que c'était bien trippant, bien le fun, fait que vous pouvez nous trouver pas mal partout. Disons qu'on est accessible.
Un gros merci, Guillaume. Bon isolement, mon cher. Si t'as besoin, yes, j'allais te livrer quelque chose sur le balcon, là, tu me lâcherais un texto, là, si tu manques de canettes, de poche bleue, là, Giro Depp, je te dépannerai. Merci, Guillaume. Bonne soirée.
Merci, Mario. Salut.
À bientôt. On retrouve Guillaume la semaine prochaine, tout comme Maxime Lapierre également.